Pour ce repas du Seigneur, j'ai souhaité prendre le texte de l'Évangile. Presque jour pour jour, c'était lundi dernier pour le jour pour jour, le monde entendait l'un des discours les plus marquants du XXe siècle. Alors on va en écouter quelques extraits, si ça marche. On va voir. Six décennies plus tard, ce refrain « I have a dream » avec mon super accent anglais est encore dans toutes les mémoires. Ce combat de Martin Luther King pour les droits civiques des Afro-Américains résonne encore comme un appel puissant à la liberté. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que ce discours-là a eu un tel impact ? Alors, on pourrait évoquer plusieurs choses. On pourrait évoquer la puissance oratoire de Martin Luther King. C'était un excellent orateur. On pourrait évoquer la rencontre d'un homme avec l'histoire. Il était au bon endroit, au bon moment. Il a prononcé le bon discours. Entre parenthèses, cette partie du discours n'était pas prévue. Il l'a improvisé. On pourrait évoquer le relais médiatique. Il y avait 250 000 personnes qui étaient présentes devant le Lincoln Memorial à Washington pour l'écouter ce 28 août 63. Mais je pense qu'on n'aurait pas fait le tour, c'est pas suffisant. Il manque un élément pour comprendre comment ce discours a pu rejoindre autant de cœurs décennie après décennie. Et cet élément, c'est ce qui nous permet, je crois, d'être pile à notre place dans notre marche avec Dieu. Je l'appelle la respiration du temps présent. Martin Luther King, c'est pas un orateur comme les autres. Il s'inscrit dans une lignée qui le dépasse très largement, une lignée qui prend sa source en fait aux prémices de ce qui a constitué pierre après pierre le fondement de notre foi. Alors on va aller faire un saut de 3000 ans en arrière auprès d'un personnage qui a ouvert la voie à ce qui constitue aujourd'hui notre vocation, la nôtre, la vocation de tout chrétien. On va ouvrir nos Bibles dans le récit de l'Exode au chapitre 3 et je lirai les versets 1 à 10. Mais avant la lecture, comme à mon habitude, je vais prier. Exode 3, versets 1 à 10. Seigneur, ce matin encore, nous te demandons d'ouvrir notre entendement, notre intelligence au sens des Écritures, au sens profond. Seigneur, cette parole, nous la savons vivante et nous voulons l'accueillir comme telle, Seigneur, et nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, fais ton œuvre en nous pour que nous puissions l'accueillir pour ce qu'elle est, cette parole, afin qu'elle puisse faire son œuvre, qu'elle puisse nous transformer, Seigneur, à l'image de ton Fils. Que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu de buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit « Je suis là. » Dieu dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites, les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Nous avons là le récit d'une expérience pour le moins singulière. Moïse est dans son quotidien. Il fait ce qu'il fait chaque jour. Il fait paître le troupeau de son beau-père. Mais dans ce quotidien, un jour, quelque chose attire son attention. Il y a là, nous dit le texte, un buisson en feu. Et chose étrange, ce buisson ne se consume pas, il ne brûle pas. Et il nous est dit que dans ce feu, le messager du Seigneur apparut à Moïse. Donc c'est un ange qui se présente à Moïse, un envoyé de Dieu. Et par cet ange, Dieu va dire à Moïse que les plaintes du peuple lui sont parvenues et qu'il l'appelle, lui, Moïse, à aller délivrer ce peuple. Son peuple. Son peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, mais aussi le peuple de Moïse, puisque bien qu'ayant été élevé par les Égyptiens, il est lui-même issu du peuple hébreu. Alors ça, c'est le récit que nous avons, tel qu'il nous est rapporté par Moïse lui-même. Et quand on lit ce genre de récit, on se confronte, je crois, à un premier problème, à une première difficulté, qui est la suivante. Quel rapport est-ce qu'il y a entre ce que Moïse a vécu et ce que moi, je vis avec le Seigneur ? Parce que ce récit semble bien extraordinaire, bien extraordinaire. Il y a là un buisson ardent qui ne se consume pas, il y a là un ange qui apparaît, il y a là Dieu qui se fait entendre. Mais à quelle expérience tangible est-ce que ça se réfère ? À quoi ça ressemblait, en vrai, je veux dire ? C'est-à-dire, à quoi ça pouvait ressembler, ce buisson en feu, mais qui ne se consume pas ? Quelle a été exactement l'expérience de Moïse qu'il nous rapporte par ces mots ? À quoi ça ressemble un ange au milieu d'un brasier ? Comment est-ce qu'on entend cet ange nous parler ? Il y a d'autres expériences comme ça qui nous semblent extraordinaires dans la Bible. On peut se demander, mais comment c'était cette affaire-là ? Comment ça s'est passé ? Plus près de nous, il y a cette expérience de Martin Luther King, un soir de janvier 1956. Ce soir-là, Martin Luther King rentre chez lui, il est épuisé. Sa lutte du moment, c'est le boycott des bus de Montgomery pour protester contre la ségrégation raciale dont sont victimes les Noirs américains. Il rentre, il est exténué. Il se couche, il s'endort près de sa femme et au milieu de la nuit, le téléphone sonne. Il décroche et à l'autre bout du fil, il entend des menaces. On le menace de mort au beau milieu de la nuit, lui et sa famille. Alors, ce n'est pas la première fois. Des coups de fil comme ça, il y en a eu d'autres. Des interruptions au milieu de la nuit, il y en a eu d'autres. Il est habitué à ça. Mais cette fois-ci, pour une raison ou pour une autre, ça le touche. Ça l'ébranle. Il tremble. L'angoisse le saisit. Martin Luther King, à ce moment-là, c'est un homme de 27 ans. 27 ans seulement. Il s'est marié 3 ans plus tôt. Il a une fille, Yolanda, toute petite. Il a toute la vie devant lui. Alors la panique le gagne. Il panique. Il tente de juguler cette panique par ses acquis intellectuels, parce que pendant ses études, il a beaucoup réfléchi à la question du mal. Il l'a bien théorisé, la question du mal. Alors il médite là-dessus, mais ça ne l'aide pas. Sa raison ne peut rien contre la force de ses émotions, rien à faire, il panique. Alors, il essaye autre chose. Il se met à prier. Et plus tard, il témoignera avoir entendu cette nuit-là, pendant son temps de prière, une voix lui dire « Martin Luther, lève-toi. Lève-toi pour le droit. Lève-toi pour la justice. Lève-toi pour la vérité. » Et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qu'a vécu exactement Martin Luther King? Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Comment est-ce qu'il a entendu cette voix? Ce qu'on sait en tout cas, c'est que quelques jours plus tard, quelques jours seulement, le 30 janvier 1956, sa maison est visée par une bombe incendiaire. Et il ne va pas se retirer. Il va continuer son combat, sa lutte. Le 20 septembre 58, il va être victime d'une deuxième tentative d'assassinat par une femme qui va lui planter un coupe-papier dans la poitrine lors d'une séance de dédicace. Et il ne va pas se retirer. Il va continuer son combat, sa lutte. Dans les années qui vont suivre, il va être arrêté 29 fois par la police, il va faire des séjours en prison, il sera menacé de mort et il ne va pas se retirer. Il va continuer son combat, sa lutte. Qu'est-ce qu'il a vécu exactement cette nuit de janvier 1956? Qu'est-ce qu'il a vu? Comment est-ce qu'il a entendu cette voix qu'il a appelée à se lever pour le droit, la justice et la vérité? Eh bien, je vous dirais, bien malin qui pourra le dire. Parce que ça s'est passé entre lui et Dieu, et il l'a rapporté avec ses mots. Mais ce qu'on peut dire avec une absolue certitude, c'est que cette expérience de Moïse et cette expérience de Martin Luther King et de bien d'autres qu'on voit dans la Bible, ce ne sont pas des expériences si extraordinaires que ça, comme si seule une poignée d'hommes et de femmes étaient amenés à les expérimenter. C'est là en fait l'expérience chrétienne normale, parce que aujourd'hui comme alors, Dieu fait entendre sa voix. Et en fait, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez vu, vous aussi, quelque chose de Dieu dans votre vie qui vous a fait, comme pour Moïse, faire un détour de votre quotidien à un moment donné. À un moment donné, vous avez lâché pour un moment votre petit troupeau et vous vous êtes approché, vous aussi, du buisson ardent, de ce moment où Dieu s'est manifesté d'une façon ou d'une autre à vous et vous vous dites « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je ne sais pas à quoi ressemblait votre buisson ardent. Peut-être qu'il était, comme pour Jésus, une affirmation puissante de l'amour du Père pour vous. Il est mon fils bien-aimé. Elle est ma fille bien-aimée. Peut-être aussi qu'il était, comme pour Martin Luther King, un buisson ardent d'angoisse et de peur au milieu d'une nuit. Si vous êtes là, si vous êtes devant ce buisson, ne vous détournez pas. Ne fuyez pas. Comme Moïse, comme Jésus lui-même, comme Martin Luther King, tenez-vous là, dans ce lieu sacré de la présence de Dieu. Cette expérience, qui est votre expérience, elle est de même nature que la leur. Et Dieu a quelque chose à vous dire dans cet endroit précis. Respire. La respiration, c'est un double mouvement. Vous avez d'abord l'inspiration, et puis ensuite vous avez l'expiration, c'est ça. Même tout bas, ça marche. L'inspiration et l'expiration. Il y a un phénomène assez curieux qui se passe entre Dieu et nous. Dieu inspire ce que nous expirons. Dieu inspire le temps présent. Dans le texte qu'on a lu, il inspire les plaintes de son peuple. Ces plaintes montent jusqu'à lui. Cette expiration du peuple, il l'inspire, lui. Tout ce que nous, nous expirons, nos soupirs, nos aspirations, nos larmes, nos joies, tout ce qui constitue le sel et le poivre de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui lui donne du goût, mais aussi tout ce qui vient la piquer, la heurter, la blesser, toutes ces expirations-là, ça lui monte au nez. Ce que nous expirons, Dieu l'inspire. Si nous expirons la justice, le droit, la vérité, Dieu inspire ça et ça sent bon, il y prend plaisir. C'est pour lui un sacrifice de bonne odeur. Ésaïe 58, versets 6 et 7, nous dit ceci. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » Ça sent bon. « Dénoue les liens de la servitude. » Ça sent bon. « Renvoie libre les opprimés. » Ça sent bon, ça. « Que l'on rompe toute espèce de joug. » « Partage ton pain avec celui qui a faim. » Ça sent bon, ça. « Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Si tu vois un homme nu, couvre-le, ça sent bon ça. Ne te détourne pas de ton semblable. Tout ça, c'est de bonne odeur pour le Seigneur. Quand nous expirons cette justice-là, ce droit-là, cette vérité-là, ça sent bon pour Dieu. Et quand ça arrive, une fois que Dieu a inspiré tout ça, il expire. Il expire sa lumière dans les ténèbres, sa guérison dans la maladie, sa source de vie dans les lieux arides. Seulement voilà, le texte que nous avons lu nous rappelle, j'ai envie de dire tristement, que notre monde n'est hélas pas fait de justice, de droit et de vérité. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, depuis l'entrée du péché dans le monde, ça n'est pas ça qui monte vers Dieu. Un peu partout autour du globe, c'est autre chose. Ce qui monte vers Dieu, ce sont les cris de détresse de son peuple qui est prisonnier d'un despote bien plus redoutable que le pharaon d'Égypte, un despote qui impose son joug sur l'humanité tout entière, qui la maintient captive et malade à force de mensonges et que la Bible appelle Satan, le menteur, le diviseur, le voleur, le destructeur. Et Dieu inspire cette odeur fétide de l'injustice et de la corruption parce qu'il entend cette détresse des hommes qui crient à lui. Et c'est ça qui monte vers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quand Dieu inspire cette odeur d'injustice, il expire sa parole. Sa parole. Le moment le plus éclatant de cette expiration divine, évidemment, c'est le moment où sa parole s'est faite chair, où elle s'est incarnée en son Fils Jésus-Christ qui est venu répandre la lumière dans l'obscurité des hommes. Jésus-Christ qui a vaincu les œuvres de Satan de telle sorte que quiconque croit en lui passe de l'esclavage du péché à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette parole que Dieu expire, elle vient rétablir la justice, elle vient rétablir le droit, elle vient rétablir la vérité. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Et le terme qui est ici traduit par « inspiré de Dieu », eh ben, c'est presque l'inverse en fait. C'est plutôt que l'écriture est exhalée de Dieu. Ce terme c'est « theopneustos » en grec. Théos, c'est Dieu, et pneustos, c'est le souffle. L'écriture, elle est inspirée parce qu'elle provient du souffle de Dieu. Elle est exhalée de Dieu lui-même. Et il en est de même pour nous. Nous pouvons dire que nous sommes inspirés lorsque ce que nous disons ou ce que nous faisons exhale de Dieu, provient de son souffle. Et dans ce monde où le peuple de Dieu souffre, où il est soumis à l'esclavage, cette parole de justice, de droit, de vérité, elle est à répandre, elle est à proclamer, à partager, à offrir pour délier, guérir, ressusciter et purifier. Et c'est pour ça que ce que Dieu dit à Moïse, ce que Dieu a dit à Martin Luther King aussi, finalement. Eh bien, il nous le dit à nous de la même façon. Va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. Ce peuple, aujourd'hui, il est répandu dans toutes les nations. Ce peuple souffrant, il est autour de nous. Ce sont nos amis, ce sont nos voisins, c'est notre famille. Ce peuple, il est dans notre quartier, dans notre ville, dans notre région. Ce peuple, nous le croisons tous les jours, où que nous allions. Alors voilà, nous sommes appelés à respirer le temps présent. C'est-à-dire à inspirer, comme Dieu le fait, comme d'autres l'ont fait aussi, Jésus l'a fait, Martin Luther King l'a fait, Moïse l'a fait, respirer les clameurs de notre époque, à prendre la mesure de la souffrance des hommes et des femmes qui errent dans cette vie comme des brebis sans berger, qui avancent dans une existence dépourvue d'espérance, qui prennent des chemins qui mènent à la perdition. Et à partir du regard de compassion que Jésus lui-même porte sur les foules, nous sommes appelés à expirer la parole de Dieu, qui elle seule est capable de guérir, de restaurer, de rendre à la vie ce qui était mort. Moïse l'a fait. Par la parole, il a confronté Pharaon, il a libéré le peuple qui vivait sous le joug de l'oppression. Martin Luther King l'a fait. Par la parole, il a confronté le pharaonisme suprémaciste blanc et il a libéré le peuple qui vivait sous le joug de la ségrégation raciale. On sait qu'il y a encore du travail, mais en tout cas dans les bus, maintenant, monte qui veut et où il veut. Mais surtout, Jésus-Christ l'a fait. Parole faite chair, il a confronté Satan et il nous a libérés de l'esclavage du péché. Et si Jésus l'a fait, c'est pour que nous le fassions à notre tour, en son nom, par son autorité, par sa puissance, parce qu'il vit en nous par son Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il nous demande ? En fait, c'est simple, en tout cas sur le papier. Après, il faut le faire, c'est autre chose. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il a prescrit ? Ben là aussi, c'est simple, en tout cas sur le papier. Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Ressusciter les morts. Voilà le mandat qu'il nous a confié. Voilà le mandat que nous entendons remplir. Je vais prier. Seigneur, tu es vraiment un Dieu qui nous rend à la vie. Seigneur, nous savons que notre vie ici-bas, quand elle est séparée de toi, c'est une illusion de vie. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, que sans toi nous sommes perdus. Et nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils, parce qu'il est mort pour nous à la croix, et que par sa mort, nous sommes vivants. Seigneur, par notre baptême, tu nous as unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection afin que nous puissions vivre d'une vie nouvelle. Une vie qui ne ressemble même pas à la précédente, qui n'a rien de commun avec la précédente. Une vie qui est remplie de ta vie, de ta source de vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour l'espérance ferme que ça nous donne dès ici-bas. Merci pour cette abondance de vie que nous pouvons voir par ton œuvre en nous et dans les gens qui nous entourent et qui t'ont reconnu comme Seigneur de leur vie. Merci pour ça, Seigneur, et merci aussi pour cette mission que tu nous confies, qui est d'être participants de cette vie nouvelle pour les gens qui nous entourent, qui sont encore dans les ténèbres, dans la crainte, dans la peur, qui sont perdus, qui errent vraiment comme des brebis sans berger, qui ne savent pas pourquoi ils font les choses qu'ils font, qui ne distinguent pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux-mêmes, qui ont la vue si courte qu'ils ne voient que jusqu'à la fin de leur propre existence, sans même savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. Seigneur, nous voulons continuer d'être tes témoins dans ce monde. Nous voulons continuer d'être sel de la terre, lumière du monde. Seigneur, tu vois toutes ces fois où cette lumière, nous la mettons sous le boisseau, nous la cachons parce que nous sommes aussi dans la crainte, nous avons peur. Nous sommes peut-être un peu lâches. Nous voulons aussi l'admettre devant toi, Seigneur. Toi, tu nous dis que tu ne nous as pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Seigneur, nous savons que ce que nous avons à apporter au monde est bon, qu'il n'y a rien de meilleur, en fait, à apporter au monde. Alors, Seigneur, nous voulons nous accrocher à cette parole. Tu nous as donné un esprit de force. Seigneur, nos épreuves, nous saurons les traverser parce que tu es avec nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par nous-mêmes, nous sommes écrasés. Par nous-mêmes, nous sommes dans la crainte, dans la peur. Nous sommes comme ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous te connaissons et tu nous connais. Alors, nous la prenons pour nous-mêmes, cette parole. Tu nous as donné un esprit de force, un esprit de sagesse. Nous allons avancer devant toi, Seigneur, par ta force, par ta puissance. Nous allons non seulement surmonter les épreuves que nous traversons, mais nous allons aussi témoigner de qui tu es, du bien que tu fais dans notre vie. Nous allons témoigner de ta lumière dans nos propres ténèbres, Seigneur, afin que le monde voit comment on peut marcher avec une espérance ferme, comment on peut marcher au milieu de ce monde qui effectivement est rempli de ténèbres, mais marcher, nous, avec la lumière du Christ qui guide nos pas. Nous te faisons confiance dans cet inconnu qui est devant nous. Nous te faisons confiance. Seigneur, donne-nous d'être tes fidèles témoins. Au nom de Jésus. Amen.